tout un monde. Éric Guevara Frey.
L'échec considérable de l'Irak.
Bonjour, nouveau défi du désarmement, les robots tueurs arrivent sur les champs de bataille. Profession trafiquant d'êtres humains, ces personnages au cœur de la crise des réfugiés avec quelqu'un qui les a vus de très près, Cécile Allégra, prix Albert Londres 2015. On en fait tout un monde, bienvenue. Avant de parler réarmement, écoutez d'où on vient en matière de désarmement. Vous vous en souvenez certainement de ces traités du nom de SALT ou START 1 et 2.
L'accord sur les SALT est signé ce soir à Moscou après des années de dures négociations.
I've come to meet with President Brezhnev on a mission of peace to strengthen and to enlarge cooperation.
The START treaty is, I think, the most important reduction that should take place in nuclear weapons.
And the promise of further progress toward lasting peace.
Quelques exemples marquants dans l'histoire récente d'avancées sur le désarmement avec des voix de présidents américains, Carter, Reagan, Bush. À l'époque, il était question de missiles nucléaires. Leur nombre a été très nettement réduit grâce à ces traités. Aujourd'hui, avec le développement de l'intelligence artificielle, d'autres types d'armes suscitent également des craintes. Les killer robots, les robots tueurs, Patrick Chaboudet.
Mais oui, des armes totalement autonomes. La décision de tirer sur une cible serait donc prise par un programme informatique. Alors sans doute très sophistiqué, mais sans l'intervention d'un être humain. Et le secrétaire général de l'ONU à Genève, Michael Müller, nous disait récemment son inquiétude à propos de ces armes.
Ce qu'on appelle les armes autonomes, ou en anglais les robots tueurs, si vous voulez, qui sont en voie de développement dans certains pays et dans l'industrie de l'armement. Là, je suis convaincu qu'on devrait commencer à négocier des traités qui vont gérer l'utilisation de ce genre d'armes. Sinon, si on laisse ça développer d'une manière autonome, sans contrôle, on va se retrouver dans une situation où les conflits vont être réglés avec des machines qui, eux, vont décider qui va vivre et qui va mourir. Et moi, franchement, j'aimerais pas vivre dans un monde pareil. Il y a des discussions en dehors du cadre de la conférence de désarmement. Et franchement, moi, que ce genre de choses soient discutées à l'intérieur ou à l'extérieur, ça m'importe moins que le fait que ça se fasse et qu'on commence à évoluer un peu sur ce domaine.
Mais les armes autonomes devraient arriver d'ici 10 à 20 ans sur les champs de bataille tout au plus. Ça, c'est la prédiction du professeur Naïef Al-Rodan, spécialiste de ces questions et du lien entre neurosciences et politique de sécurité. Il partage son temps entre Oxford, Harvard et le Centre de politique de sécurité de Genève, le GCSP. Je lui ai demandé de nous expliquer l'enjeu des armes autonomes parce que, à première vue, on se dit qu'il n'y a pas forcément une grande différence entre se faire tirer dessus par un robot ou par un soldat.
It's not just the killing, who does the killing. The idea of autonomous robots who make decisions on their own.
Ce n'est pas juste la question de savoir qui tue. C'est l'idée d'avoir des robots autonomes qui prennent des décisions tout seuls qui est troublante pour la plupart de ceux qui réfléchissent à ces questions. Et il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, il y a le risque de défaillance, car ce sont des machines. Ensuite, ces robots peuvent être détournés, piratés. Et à terme, même si c'est pour dans longtemps, ils deviendront ultra-autonomes, c'est-à-dire qu'ils sauront modifier eux-mêmes leur programmation et ils pourront faire ce qu'ils veulent, hors du contrôle de leur propriétaire ou programmateur. Et puis, ces machines finiront par être très brutales et ça posera toutes sortes de problèmes en lien avec les conventions de Genève et les règles de la guerre. Sans compter que ça compliquera beaucoup la réconciliation post-conflit à cause de la brutalité et des aspects émotionnels associés.
Mais les robots devront respecter les règles de la guerre. Est-ce qu'il faudra les adapter, les modifier ?
The idea of autonomous weapons push us to reconsider the Geneva Conventions.
L'idée de ces armes autonomes nous pousse à reconsidérer les conventions de Genève et les règles de la guerre, ainsi que les mécanismes internationaux de réglementation. Et puis, il y a beaucoup de discussions pour savoir si l'on peut créer des robots tueurs moraux. La réponse est très difficile à trouver, à cheval entre la philosophie et l'informatique. On peut théoriquement programmer des directives morales dans les machines. Mais ça génère une autre question. On se base sur la morale de qui pays, de celui qui programme, du ministère de la Défense d'un pays en particulier. N'oubliez pas non plus que ces machines pourront être dans les mains d'États voyous ou d'organisations voyous. Et je le répète, à terme, ces machines pourront sortir de notre contrôle. Et la façon dont elles verront l'humanité en tant que menace déterminera leur comportement.
And how they see humanity as a threat will determine their behavior. So we're really entering.
Ça viendra d'ici 3 ou 4 décennies, mais nous entrons maintenant dans une période d'incertitude totale, dans un monde nouveau qui pourrait remettre en cause l'humanité telle que nous la connaissons. Ce n'est pas une exagération, c'est la réalité. Mais nous avons une possibilité de mettre sur pied des réglementations, bien que ni les industriels ni les États ne voudront trop réglementer.
Vous nous alertez sur les dangers des armes autonomes, mais pourquoi sont-elles en cours de développement? Est-ce qu'il y a des points positifs?
From the corporate entity standpoint, there is an upside because it's something they can sell.
Du point de vue de l'industrie, c'est un débouché commercial. Du point de vue des gouvernements, c'est la possibilité d'avoir moins de soldats morts sur les champs de bataille, et donc c'est un avantage politique. D'un point de vue militaire, c'est une machine à tuer plus efficace.
So from the military standpoint, it's a more effective killing machine.
Comment faut-il encadrer le développement des armes autonomes pour tenir compte des considérations éthiques?
Well, I think this is a very serious issue, and this needs transnational action.
C'est un problème très sérieux qui demande une action transnationale, mais il est très difficile d'en parler collectivement de façon transparente et responsable, parce qu'il s'agit de domaines sensibles et secrets.
In a responsible collective fashion to regulate these, because one of the things that we have to be aware of is the question of liability and accountability. How do you prosecute?
L'une des questions principales, c'est celle de la responsabilité juridique. Qui est responsable? Le programmateur? Le général qui donne des ordres? Un autre robot qui coordonne ses semblables? C'est très compliqué. L'éthique et l'intérêt national ne vont pas ensemble. L'éthique et le profit ne vont pas ensemble. Si on laisse faire les gouvernements et les entreprises, on n'ira pas très loin. Les citoyens responsables dans le monde doivent s'y intéresser de façon collective, intelligente et progressive pour essayer d'obtenir au moins quelque chose.
Et cet intérêt, cette inquiétude même, Patrick Chavoudet, sont déjà bien présents au sein de certaines ONG et de la société civile.
Mais oui, avec notamment cette campagne Stop Killer Robots, un stop aux robots tueurs lancé il y a un peu plus de 2 ans. Pour Steve Goose, un des responsables de Human Rights Watch, une ONG qui est très en pointe dans cette question, eh bien, il y a tout simplement urgence parce que ces armes pourraient être développées rapidement et plusieurs pays ont encore une position ambiguë sur cette question.
Aucun pays ne parle de développer activement ces armes, mais les États-Unis, Israël, la Russie, la Chine ou la Corée du Sud veulent garder les options ouvertes. Et ils ont des programmes de recherche et de développement qui pourraient conduire à l'utilisation de ces armes. Tout récemment, dans une lettre ouverte, des milliers de scientifiques actifs dans l'intelligence artificielle estimaient que c'était une question d'années et non pas de décennies. Les progrès de l'intelligence artificielle seront très rapides, exponentiels. Donc il y a des raisons d'être inquiet. C'est pourquoi nous demandons maintenant et de manière urgente une interdiction préventive du développement, de la production et de l'utilisation de ces armes autonomes.
Et cette campagne qui veut interdire ces armes a donc déjà un certain impact.
Nous avons une campagne très active et engagée de la part de la société civile qui met la pression sur les gouvernements. Nous avons le soutien de la communauté scientifique, de 2 douzaines de prix Nobel de la paix, de plus de 70 leaders religieux de toutes confessions. Et même chez les militaires, beaucoup de personnes ne veulent pas voir se développer les robots tueurs. Ils pensent qu'ils sont dangereux pour les mêmes raisons que nous. Et beaucoup sont inquiets pour des questions éthiques et légales. Ils sont préoccupés également par les risques de prolifération. Ils sont convaincus qu'ils peuvent faire un meilleur job que les robots tueurs, surtout pour déterminer ce qu'est une cible légitime ou alors une attaque sans risque excessif pour la population civile. Ce sont des professionnels entraînés qui ont fait cela toute leur vie. Ils savent à quel point c'est difficile et ne pensent pas qu'un programmeur peut le faire aussi bien qu'eux.
Dans le domaine du désarmement, Patrick, plus que jamais, la société civile a un rôle important à jouer.
Ben oui, parce que dans les cénacles officiels, comme la conférence sur le désarmement à l'ONU par exemple, eh bien les choses sont bloquées depuis de nombreuses années, à la grande frustration d'ailleurs de Michael Müller. Le directeur général de l'ONU à Genève souligne l'impact que peut avoir la société civile quand elle se mobilise.
Les mines antipersonnelles, si on avait laissé ça aux pays membres, on n'aurait jamais eu un accord qui les rendait illégaux. Il y a eu un mouvement mondial avec Jody Williams, qui était une femme extraordinaire, qui a d'ailleurs eu le prix Nobel, et qui a fait tellement pression sur les pays membres que finalement on a eu le traité d'Ottawa, qui maintenant existe depuis 20 ans au moins, et qui a comme résultat que des centaines de milliers de gens n'ont pas perdu leur vie ou leurs jambes ou n'ont pas été blessés.
Donc clairement la société civile pour vous c'est un allié indispensable.
Oui, absolument. Ça doit l'être. Et puis on doit trouver des manières de structurer notre collaboration au-delà de juste une conversation sympathique de temps en temps. Et bon, je ne suis pas là pour créer des nouvelles structures, mais c'est vraiment pour essayer de pousser et de faire comprendre, même aux membres les plus récalcitrants, que c'est dans leur intérêt et dans l'intérêt de leurs citoyens que la société civile et locale et internationale fait partie du débat.
Oui, un débat qui prend de l'ampleur. Ce printemps, à l'ONU à Genève, des représentants de 90 pays et de nombreuses ONG ont tenu leur deuxième réunion informelle sur les armes autonomes.